Bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Fondation Abbé Pierre demande un virage politique. Dans son 24e rapport, elle estime que 12 millions de personnes en France sont en situation de fragilité par rapport au logement. Elle appelle surtout à protéger les plus faibles, d'anciens détenus, des personnes qui sortent d'hôpital psychiatrique ou encore des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance. Nous y reviendrons.
Alexandre Benalla et ses liens étranges avec un oligarque russe. Mediapart publie une nouvelle enquête, des preuves aussi sonores. L'ancien collaborateur de l'Élysée dit avoir le soutien du président, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous irons aussi au Venezuela où notre envoyé spécial a pu rencontrer le numéro 2 du régime Maduro. Lui est persuadé que cette énième crise politique dans le pays passera et que les États-Unis orchestrent le tout.
Le Liban a enfin un gouvernement. Il était temps car le pays est au bord de l'asphyxie financière, nous dira notre correspondant à Beyrouth.
Après ce journal, dans un gros quart d'heure, nous retrouverons Frédéric Seyss pour son billet politique. Il se demandera pourquoi Emmanuel Macron livre à son tour des confidences aux journalistes. Le débat ouvert par les Gilets jaunes sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement. Voilà ce qu'estime la Fondation Abbé Pierre dans son rapport consacré à l'année 2018, une année lors de laquelle 4 millions de personnes étaient encore mal logées en France. 12 millions de Français, d'ailleurs plus globalement, sont touchés par la crise du logement. Et il ne faut pas l'oublier dans ce contexte de crise sociale. Voilà la mise en garde du directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert.
Notre crainte à la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'il y ait des réponses qui soient apportées aux classes moyennes inférieures, aux classes populaires, mais que les plus pauvres, les grands précaires, ceux qui n'ont pas la force ou parce qu'ils sont occupés à survivre, ne vont pas se manifester, battre le pavé autour des ronds-points, que cela soit les grands oubliés de cette séquence. Et c'est vrai que dans certaines réponses apportées par le président de la République, le gouvernement, la prise en compte de ceux qui travaillent, par exemple, mais dont les ressources du travail ne suffisent pas à s'en sortir, a grandi. On dit, on va accélérer la prime d'activité, et c'est bien. Mais l'accélération de la prime d'activité, c'est pour ceux qui travaillent. Quid de ceux qui sont très éloignés de l'emploi? Quid de ceux qui sont dans des situations tellement difficiles que c'est les besoins de première nécessité qui comptent? Est-ce que ceux-là vont être dans le viseur de cette séquence? Ça reste pour nous encore une inconnue, mais il le faut impérativement pour des raisons de cohésion sociale du pays.
Et changer de politique pour le logement, c'est avant tout savoir quelle situation pousse vers le mal logement. Le rapport Fiona Mogadam souligne les difficultés croissantes pour les personnes souvent dépendantes qui sortent d'une institution.
Il y a d'abord un constat assez simple.
On fait beaucoup d'efforts aujourd'hui en France pour sortir les gens de la rue, pour les amener vers le logement. Mais le premier effort à faire, c'est d'éviter que les gens finissent à la rue.
Manuel Domergue est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Chez les personnes sans domicile, celles qui sortent d'institutions sont largement surreprésentées. Un quart des SDF nés en France sont par exemple d'anciens jeunes de l'aide sociale à l'enfance. 18% des jeunes passés par l'aide sociale ont connu la rue moins d'un an après leur sortie du dispositif. Et un tiers des sans-abri souffrent de troubles psychiatriques sévères. Tous victimes d'un abandon de l'État, estime Manuel Domergue.
Quelqu'un qui a passé 15 ans en hospitalisation psychiatrique, que personne s'est préoccupé de ce qu'il allait devenir à la sortie. Quand on lui dit « appelez le 115 ». Le 115, on sait bien que la plupart du temps, il n'y a aucune solution et que les personnes dont on parle ne sont pas prioritaires. Et donc, on va les laisser pendant 6 mois, 1 an, plusieurs années, errer, mourir souvent. L'âge moyen de décès à la rue, c'est 49 ans en France. Donc ça ne peut pas être du jour au lendemain « merci, au revoir, vous êtes dehors ».
Ces situations appelées les sorties sèches sont évitables. Il suffirait pour cela d'un meilleur accompagnement de ce public particulier.
Il faut un travail en amont pour anticiper la sortie avant qu'elle se produise, pour ouvrir les droits avant que les gens sortent, notamment le droit au RSA, les allocations familiales, etc. Et puis pour qu'il y ait des demandes de logement social qui soient effectuées avant la sortie. Ce sont des personnes qui doivent être prioritaires dans l'accès au logement social, donc les bailleurs sociaux doivent arrêter de demander multiples garanties avant d'en prendre quelques-uns.
La Fondation Abbé Pierre demande aussi aux collectivités d'agir, comme Lyon, qui s'est engagé par exemple à ce qu'il n'y ait plus aucune sortie sèche d'ici 5 ans.
Le mal logement absent, en tout cas ou peu présent dans le débat engendré par la mobilisation des Gilets jaunes ces derniers mois, les manifestants se préparent à de nouveaux rassemblements demain samedi, rassemblements notamment à Valence dans la Drôme. La mairie y attend entre 6 et 10 000 personnes. Elle redoute des casseurs. Les sénateurs de la commission d'enquête sénatoriale se disent sidérés. Mediapart publie de nouvelles informations embarrassantes pour Alexandre Benalla. Le site internet affirme que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron aurait bel et bien passé un contrat avec un oligarque russe, un proche de Vladimir Poutine, et ce lorsqu'il était encore en poste à l'Élysée. Mediapart publie également le contenu d'une conversation d'Alexandre Benalla. Ce dernier y explique avoir le soutien du président de la République, qu'il appelle d'ailleurs « patron », Stéphane Robert.
L'enquête de Mediapart est étayée par l'enregistrement d'une conversation entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Kras. Conversation authentifiée et datée du 26 juillet sur le site internet, alors que les deux hommes, sous contrôle judiciaire, n'étaient pas autorisés à se rencontrer.
C'est un cauchemar. C'est une bonne expérience. Il n'y a pas grand monde qui provoque deux commissions d'enquête parlementaires, qui bloquent le fonctionnement du Parlement.
Ça le fait rire.
Lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il est nerveusement, mais ça le fait marrer.
Le patron, ça le fait marrer. Le patron, c'est le surnom par lequel Alexandre Benalla désigne Emmanuel Macron. Et il semble à cette date tout à fait certain de bénéficier du soutien du président de la République. Un SMS le confirmerait, selon l'intéressé, ce que dément aujourd'hui l'Élysée. Plus gênant encore pour Alexandre Benalla, ce sont les liens qu'affirme avoir établi Mediapart entre lui, Vincent Kras, une société qu'ils avaient montée et un oligarque russe. Marine Turchi est l'une des enquêtrices de Mediapart.
Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est qu'Alexandre Benalla a menti. Contrairement à ce qu'il a juré sous serment devant le Sénat, Alexandre Benalla s'est personnellement impliqué, alors même qu'il travaillait encore à l'Élysée à l'époque, dans le contrat de sécurité qui a été signé avec un oligarque russe, un oligarque qui est soupçonné de lien avec la mafia et qui est par ailleurs proche de Vladimir Poutine.
Les sénateurs de la commission d'enquête hier soir expliquaient vouloir rester prudents. Ils vont examiner toute l'enquête afin de déterminer s'il y a eu mensonge ou non. Si c'est le cas, ils saisiront la justice et préviennent que la sanction encourue peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison.
C'est une hausse notable, la hausse du nombre de plaintes déposées pour violences sexuelles l'année dernière en France. Selon le ministère de l'Intérieur, les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17% en 2018, plus 20% pour les agressions sexuelles. Le gouvernement y voit entre autres un effet de la libération de la parole après l'affaire Weinstein. Et souligne également Caroline Dehas du mouvement féministe Nous Toutes, cela ne veut pas dire, dit-elle, qu'il y a eu plus de violences en 2018.
L'augmentation du nombre de plaintes pour violences sexuelles, c'est le signe que la société est en train de bouger de manière extrêmement rapide. C'est pas forcément le signe qu'il y a eu plus de violences sexuelles en 2018 que les années précédentes, mais c'est le signe que les femmes vont beaucoup plus qu'avant porter plainte et sans doute que leurs plaintes sont prises plus au sérieux. Donc la société est en train de changer dans son regard sur les violences sexistes et sexuelles. MeToo, ça a été un accélérateur. Très important, mais la société, elle avait déjà commencé à bouger avant et elle continuera à bouger après MeToo. Les mobilisations sur les violences, elles ont été continues en fait depuis des dizaines d'années et MeToo a la particularité d'avoir été un accélérateur mondial en matière de prise de conscience contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu un avant et il y aura un après MeToo.
Caroline Dehas du mouvement féministe hashtag nous toutes. Leurs avocats dénoncent une erreur judiciaire et annoncent déjà qu'ils feront appel. Deux anciens policiers de la BRI ont été condamnés hier soir à 7 ans d'emprisonnement, reconnus coupables du viol d'une touriste canadienne en 2014 dans les locaux parisiens du 36 quai des Orfèvres. Un verdict conforme aux réquisitions du parquet. En bref, encore, la loi alimentation entre en vigueur aujourd'hui, 1er février, et les prix de centaines de produits vont augmenter. À cause du relèvement à 10% du seuil de revente à perte. Selon le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, la hausse attendue est de l'ordre de 4% sur 800 des 20 000 produits proposés en supermarché.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, propose son plan économique pour relancer le pays.
Il s'est adressé à la Chine et à la Russie notamment, estimant qu'un changement de gouvernance au Venezuela serait profitable à ses deux créanciers. Pékin et Moscou soutiennent pour le moment toujours le président élu Nicolas Maduro. Juan Guaido, l'opposant donc, a par ailleurs dénoncé hier des tentatives d'intimidation pour ses proches. Il accuse justement le chef de l'État, Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui lui répond par la voix de son numéro 2, Diosdado Cabello, un fidèle parmi les fidèles du chavisme. Notre envoyé spécial, Olivier Poujade, a pu rencontrer ce militaire qui, chaque semaine, anime un show télévisé.
Numéral leales, siempre. Traidores, nunca.
Loyauté toujours, trahison jamais, les spectateurs connaissent par cœur la formule de cette émission à la gloire du commandant Hugo Chavez. Dans la salle de ce vieux théâtre du cercle militaire de Caracas, des soldats, des jeunes étudiants bolivariens savourent l'ironie glaçante osée par Diosdado Cabello.
Les seuls responsables de la sécurité de Guaido, ce sont les gens de l'ambassade américaine.
Hier encore, l'opposant Juan Guaido se disait menacé par la sécurité intérieure vénézuélienne dont Diosdado Cabello a toujours été proche. Il ne change jamais de cible, sur scène comme dans sa loge où il tombe le masque.
Nous prenons très au sérieux la menace d'invasion des États-Unis. Ils conduisent notre peuple vers une guerre. Nous n'allons pas renoncer. Nicolas Maduro ne renoncera pas. Il a été élu par un peuple et nous résisterons. Ils verront jusqu'où ça nous mènera. Ce qu'ils veulent, c'est orchestrer une invasion contre le Venezuela. Ils doivent savoir qu'en cas de guerre, c'est eux qui seront en danger.
Hugo Chavez, Simon Bolivar, pour Diosdado Cabello, le numéro 2 du pouvoir vénézuélien. La crise actuelle n'est qu'une répétition de la longue histoire de son pays.
Un reportage d'Olivier Poujade depuis Caracas avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Une énième crise, donc, voilà ce que dit le gouvernement vénézuélien. Une crise qui dure en tout cas. Une nouvelle grande manifestation pro-Juan Guaido est organisée demain, samedi, dans le pays. L'Union européenne, par ailleurs, annonce qu'elle va constituer un groupe de contact pour de nouvelles élections au Venezuela. Et voici un autre exemple d'un pays déchiré par une crise politique et par des ingérences externes. Au Liban, la crise s'est accouplée à une guerre civile qui avait ravagé le pays dans les années 70. Eh bien, aujourd'hui, 8 mois après un blocage, les formations politiques sont enfin parvenues à un accord pour former un gouvernement, Aurélien Colli.
30 ministres, dont 4 femmes, autant de chrétiens que de musulmans. Et après des mois de marchandage, une délicate répartition des portefeuilles pour parvenir à un équilibre entre des partis confessionnels qui se déchirent sur fond de guerre en Syrie, de soutien ou pas au régime de Damas, de lutte d'influence entre l'Iran chiite, l'Arabie saoudite sunnite et les occidentaux, États-Unis, Russie ou France, l'ancienne puissance mandataire. Victime collatérale de la guerre syrienne à sa frontière est, avec 1,5 million de réfugiés dont le poids économique et social est difficilement supportable, des tensions à sa frontière sud entre Israël et le Hezbollah piloté par l'Iran qui alimente le spectre d'une nouvelle guerre, doté aussi d'un état faible, miné par les antagonismes et la corruption, le Liban se rapproche dangereusement du gouffre, taux de chômage à 30%, croissance passée de 9 à 1%, déficit multiplié par 2 en un an et dette publique à 140% du PIB. La formation de ce gouvernement devenait donc urgente, très urgente, pour accéder à l'aide internationale conditionnée à cette étape, conditionnée aussi à des réformes de fond pour assainir les finances, améliorer la gouvernance et relancer une économie aujourd'hui à bout de souffle.
Tout est oublié, ou presque. Les relations semblent en apparence pacifiées entre Pékin et Washington. La Chine accepte d'augmenter ses importations de biens américains et de renforcer la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle. De son côté, le président américain Donald Trump annonce qu'il va bientôt rencontrer Xi Jinping, son homologue chinois, pour sceller un accord commercial entre les deux pays. Tout semble donc s'apaiser, sauf peut-être, Dominique André, sur la question des droits de l'homme.
Cela a le don d'irriter ce diplomate chinois pour qui on peut parler des droits de l'homme, mais sans trop insister. Les États-Unis expriment souvent leur inquiétude sur les droits humains en Chine. Cette semaine, le département d'État a mis en avant 2 dossiers, celui du célèbre avocat chinois Wang Tuanzhang. Condamné à 4 ans et demi de prison pour subversion, il avait disparu pendant 3 ans sans que sa famille n'ait pu avoir de nouvelles. Maître Wang était le dernier à ne pas avoir été jugé ou relâché parmi la vague d'arrestations de 2015 dans les milieux des défenseurs des droits de l'homme. Washington demande sa libération. Le comité Nobel a lui été saisi d'une demande de plusieurs élus démocrates et républicains américains pour l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti qui a été condamné à la prison à vie en Chine. Les 13 représentants américains recommandent que l'économiste ouïghour soit récompensé cette année du prix Nobel de la paix. Pékin l'accuse de séparatisme. Cette dernière nouvelle était attendue par les organisations de défense des droits de l'homme. 2 dissidents chinois bloqués en zone internationale à l'aéroport de Taïwan viennent tout juste d'obtenir l'autorisation de séjourner provisoirement dans l'île en attendant que leur demande d'asile soit examinée par le Canada. Décidément, ces discussions commerciales entre Chinois et Américains sont bien complexes.
Dominique André, depuis Pékin pour France Culture. Comme tous les vendredis, nous vous proposons dans le journal de 8h un aperçu du grand reportage diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture. Et cette semaine, Raphaël Kraft nous emmène en Guinée-Conakry. Il a enquêté sur le rôle dans le pays de l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, une organisation de plus en plus critiquée pour servir les seuls intérêts occidentaux en matière migratoire. Voilà ce que nous explique Raphaël Kraft.
Créée en 1951 à l'initiative des États-Unis, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est surtout connue pour son rôle logistique auprès des migrants à déplacer d'un point à l'autre de la planète. C'est ce qu'elle fait en Libye depuis 2017 avec son programme de retour humanitaire volontaire. Agence intergouvernementale devenue membre de l'ONU en 2016, l'OIM n'est pas contrainte par la Convention de 1951 relative aux réfugiés. Prestataire de services pour ses principaux bailleurs, les pays occidentaux, elle intervient de plus en plus dans les pays du Sud pour définir leur politique migratoire. Elle est devenue un acteur clé dans le processus d'externalisation de la frontière des pays européens en Afrique. En Guinée-Conakry, outre de prendre en charge les migrants qu'elle a rapatriés de Libye, du Niger ou du Maroc, de former les gardes-frontières et la magistrature contre les réseaux de traite, elle s'est lancée dans une vaste entreprise de communication d'influence auprès de la jeunesse guinéenne, en ayant coopté une large part du monde des arts et de la culture. Plus de 10 ans après le titre « Ouvrez les frontières » du chanteur ivoirien Tikenja Fakoli, les rappeurs, humoristes et autres artistes guinéens invitent aujourd'hui leur jeunesse à ne pas partir.
L'OIM en Guinée, contrôle des frontières et des âmes. C'est un reportage de Raphaël Kraft réalisé par Moussa M. Le Chili. Il sera diffusé à partir de 17h sur France Culture et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Très rapidement, la météo de ce vendredi, de la pluie pour tout le monde, avec des températures qui remontent un peu, 2 degrés ce matin à Lille, 7 à Lyon, Châteauroux, Bordeaux et Paris, 13 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.